Jess Glenn Gray est un philosophe écrivain et professeur de philosophie à l'Université du Colorado. Il a vécu entre 1913 et 1977. Sa première publication majeure, en anglais The Warrior Reflection on Men in Battle, est un mémoire philosophique de ses années en tant qu'officier de contre-espionnage près des lignes de bataille en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale, inspiré par l'opposition de Gray à la guerre. Le fait d'avoir participé à la Seconde Guerre mondiale explique pourquoi sa publication a été publiée que en 1959, car il a voulu prendre un petit peu de recul sur la Deuxième Guerre mondiale tout en s'appuyant sur son expérience de combattant.
J'ai été soldat. Je peux vous dire ce que ça fait d'être soldat, de ressentir qu'on devient moins bien qu'un homme. J'ai pu voir les désirs de moi et mes compères devenir de plus en plus étriqués, de plus en plus voilés durant cette guerre. Durant la guerre, on ne procédait qu'à la satisfaction de nos désirs naturels, c'est-à-dire manger, boire et convoiter les femmes. Et tous les intérêts et les raffinements que permet l'existence à l'âme devenaient secondaires. J'ai pu garder les miens parce que j'avais ce côté philosophe en moi. Mais j'ai senti que tout ce que j'avais bâti au fil des ans s'estompait. Je peux donc vous dire que la guerre peut être vecteur de transformation auprès des hommes et qu'elle altère notre essence.
La guerre, de par son environnement violent et émotionnellement difficile, c'est à cause de ce facteur qu'elle nous transforme. Mais c'est aussi le fait que ce qu'elle va le transformer dans l'homme, c'est son essence. Le statut de combattant, donc qui est habitué à la guerre dans un climat de violence, c'est ça l'essence qui va changer dans l'homme. De plus, on peut dire que la guerre est en quelque sorte d'une nature aporique, car elle va forcément mener à l'homme vers un abîme. Et je pense que la guerre, elle nous attire d'une certaine manière parce qu'elle a des charmes secrets qui sont difficiles à percevoir et qui ne sont pas explicables. En effet, on peut voir la jouissance de voir cette destruction, on peut avoir la jouissance de la fraternité et on peut avoir la jouissance d'être présent lors des combats. Donc au final, lorsqu'on est guerrier et combattant, on a à la fois un sentiment d'haïr cette guerre, mais à la fois d'aimer cette guerre parce qu'on s'y sent quelque part à l'aise.
À travers cette guerre, donc et le risque et le danger qu'elle propose, il y a une vraie fraternité qui se crée entre les hommes. La compagnie devient plus qu'une compagnie. On fusionne en quelque sorte. Et durant cette guerre, on a tendance à perdre notre essence individuelle pour créer une essence beaucoup plus collective et créer une sorte de fraternité que rien d'autre ne peut créer au monde.
Au final, on peut se demander si le danger peut-il détruire les barrières du moi et offrir à l'homme de quoi faire l'expérience de la communauté, parce que la guerre, avec tous les soldats qui sont ensemble, c'est devenu une collectivité, c'est devenu une communauté, une organisation. Et c'est à travers cette organisation que on vient retrouver cette idée de fraternité et que l'homme perd son essence d'individu et va rentrer dans l'esprit de groupe. Et de plus, c'est cet amour du risque et du danger, qui au final représente le hasard, qui fait que la guerre est quelque part attirante et attrayante.
Parce qu'en effet, cet effet de groupe additionné au danger crée une sorte d'extase qu'on peut retrouver nulle part ailleurs. Et cette extase va donner une liberté, parce qu'on se libère de notre impuissance individuelle pour créer un esprit de groupe qui peut dépasser celle-ci et donc avoir l'air puissant. Et donc nous donner enfin une liberté introuvable ailleurs.
Au final, l'apogée de la fraternité se gagne au combat, et cette fraternité, elle permet une puissance et une délivrance de chaque combattant. En fait, l'homme devient une seule et même entité, le groupe devient une seule entité qui se sent dès lors invulnérable et repousse les limites logiques. La mort qui était certaine devient alors irréelle et inconcevable, et l'immortalité qui paraissait lointaine vient à proximité.
Par effet de groupe, je veux dire cette capacité qu'ont les hommes dans une compagnie à tous avoir la volonté de se sacrifier pour le collectif. Et donc cette volonté de sacrifice va elle aussi créer une fraternité.
De quelque part, l'élément mystique de la guerre, c'est ça. Et comme l'ont évoqué par exemple William James dans sa citation, la société pourrirait sans l'attribut mystique du sang. Ou encore J.F. Nicolai dans The Biology of War, où il nous dit « la capacité sans limite au sacrifice de soi est l'élément grandiose et enivrant de la guerre ».
C'est cette chose qui me pousse à dire que la guerre est nécessaire à l'homme. Parce que ce sacrifice donne une nécessité et une finalité morale à cette guerre. Dans sa capacité à nous faire accéder à une liberté qu'on ne peut inaccessible autrement.
Mais non, quand même, moi j'ai une question. Mais alors, la guerre, on ne pourra jamais en sortir. Elle est absolument nécessaire. Presque, elle fait du bien à l'homme. Elle fait sortir de ses limites.
Je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais demandez à n'importe quel ancien combattant, il vous dira que le sommet de l'extase qu'il aurait pu ressentir dans son existence, c'est durant une guerre, durant un moment de pure fraternité avec ses camarades. Et cette pure fraternité, la guerre, c'est seulement d'obtenir. Donc, d'une certaine manière, la guerre est nécessaire à l'espèce humaine.
Mais du coup, qu'est-ce que vous faites de ceux qui subissent clairement la guerre, qui ne sont pas au front, les femmes, les enfants, qui subissent du coup cette guerre et n'ont pas du coup, ne vivent pas du coup cette extase que les soldats peuvent ressentir? Est-ce que du coup, ce serait pas presque un peu égoïste de vouloir cette guerre, de dire qu'elle est absolument nécessaire, alors qu'elle profite qu'à vous et qu'à plein de gens qui vont la subir sans ressentir le moindre moral positif ni rien du tout?
Mais je ne prône pas forcément la guerre, parce que forcément elle va être néfaste pour des centaines, des milliers d'individus. Cependant, j'explique simplement qu'elle a des effets inattendus et parfois même inexplicables, ce côté mystique que j'expliquais tout à l'heure. Donc forcément, la guerre est néfaste parce qu'elle est destructrice. Mais le combattant qui a vu la violence, qui a subi cette violence, il ressent des choses qu'on ne soupçonne pas autrement.
Je ne justifie pas la guerre, je l'explique.
Finalement, votre expérience de la guerre est intéressante parce que ça permet d'avoir une compréhension plus poussée de ce qui peut empêcher aussi de lutter contre la guerre, ce qui fait qu'il y a expliquer cet attrait qui est, comme vous l'avez dit, difficilement entendable pour des gens qui n'ont pas vécu la guerre et qui donc vont tenir un propos pacifiste et ne pas comprendre pourquoi certaines personnes pourraient être attachées au combat. Donc même si vous ne prenez pas la guerre, ça peut être intéressant, comme vous le faites, d'essayer de comprendre. Voilà, c'était juste pour ajouter ça, pour régler
le malentendu.
Oui.
Et est-ce que finalement, ce qu'on trouve dans la guerre, on ne pourrait pas le trouver ailleurs? Ce qui fait qu'on remplacerait la satisfaction de la guerre par autre chose. Donc on pourrait. Est-ce que vous avez des conseils à ce niveau-là, Monsieur Gray?
Pour l'instant, la guerre est le seul moyen que l'homme a trouvé de vraiment éprouver ses sentiments, cette sensation de liberté, de puissance et de communauté. Mais il faudrait trouver un autre moyen, une alternative à la guerre, forcément.
On peut même dire qu'une société est viable, c'est une société qui a trouvé le moyen d'obtenir cette extase sans guerre.
Et puis peut-être aussi pour répondre à la question, peut-être que finalement, quoi qu'on fasse, toute cette énergie négative, c'est ce besoin de violence, de solidarité, tout ça, peut-être que finalement ça s'exprimerait toujours, mécaniquement assez violemment, étant donné que là, quand je pense à un autre témoignage de grands mouvements de fraternité, de force commune, d'oubli de soi, finalement, l'idée qui vient, c'est les États totalitaires qui ont été ensuite aussi vecteurs de violence. Donc, est-ce que ce serait réellement possible d'avoir une façon de subvenir à ce besoin de solidarité et d'union sans qu'il y ait des dérives violentes?
Je pense personnellement que c'est possible à travers des exemples comme je pense au sport par exemple. On peut aussi retrouver ces idées de perte de soi dans le collectif et c'est pas forcément violent. Et donc je pense qu'il y a d'autres moyens mais qui sont beaucoup moins impactants qu'une guerre et pour tout le contexte et aussi pour les soldats entre eux et ce qu'ils vivent. C'est beaucoup moins fort ce qu'on ressent dans le sport que ce qu'on doit ressentir à la guerre, je suppose.